Comment?
Oui, c'est celui-là.
C'est numéro 3.
Marie, en ce jour où nous avons célébré le Sacré-Cœur de ton Fils Jésus, eh bien nous te demandons aussi cette grâce de nous laisser vraiment toucher par ce cœur ouvert, celui de ton Fils, ouvert pour nous, tous les hommes, toutes les femmes, de tous les temps, sans exception. Et tous ceux qui se sont approchés de ce cœur et qui ont laissé ce cœur s'approcher d'eux ont été transformés. Alors oui, nous te demandons, Vierge Marie, de nous aider, de nous rendre humbles comme toi. Tu l'étais aussi quand tu as exprimé ta reconnaissance au Seigneur qui s'était penché sur son humble servante. Eh bien, fais de nous, Vierge Marie aussi, des hommes, des femmes qui ne soient pas remplis d'eux-mêmes parce qu'on ne goûte pas le cœur de Dieu quand on est rempli de soi-même. Il n'y a plus beaucoup de place pour accueillir ce que Dieu nous donne quand on est plein de soi. L'Esprit Saint, on vient de l'invoquer, il nous accompagne depuis lundi dans cette retraite. Vous vous rappelez, hein, cet Esprit qui déjà est sur les eaux au commencement, cet Esprit qui vient féconder Jésus dans le sein de Marie, cet esprit, voilà. Et puis la foi en l'Esprit Saint aussi. Il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi la foi en la puissance de l'Esprit Saint. On l'a vu avec Marie et Joseph, chacun pour leur part, leur foi qui va donner d'accueillir ce que le Seigneur veut faire naître par son esprit. Oui, et donc il y a cette foi en la puissance de l'Esprit Saint. Oh, nous avons aussi rencontré l'Esprit Saint mercredi, rappelez-vous Nicodème, le baptême aussi, la confirmation, oui, être marqué, imprégné, renaître d'en haut, c'est renaître de l'eau et de l'Esprit. Hier, eh bien, nous avons accueilli avec Pierre aussi. Combien le travail de Dieu dans le cœur de l'homme peut ajuster son regard sur les représentations qu'il se fait de Dieu pour accueillir Dieu qui se donne tel qu'il veut se donner. Ça nous préparait bien pour aujourd'hui, le Sacré-Cœur. Et nous avons renouveler notre consécration au Sacré-Cœur de Jésus à la fin de la messe. Ce cœur Voilà. Je voudrais parcourir une rencontre de ce cœur ouvert avec une femme dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Jean, aujourd'hui, parce que c'est une rencontre qui va, je crois, si bien avec ce que nous avons fêté aujourd'hui, célébré Sacré-Cœur. C'est la rencontre avec la Samaritaine au bord du puits. On va voir pourquoi je fais ce lien avec le Sacré-Cœur au fil de la lecture, mais en même temps, à nouveau, l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est au cœur de ce récit où nous réentendrons combien le Seigneur dit bien que ce sont des adorateurs en esprit et en vérité que le Père espère. Attends. Vous êtes prêts à ce qu'on aille au Puy de Jacob ? Oui. Alors, nous y allons. Chapitre 4 du... Chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Je commence, voilà, au chapitre, au verset 3. Il, Jésus, quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis, tout simplement, au bord du puits. La parole de Dieu est tellement riche. Ça vous est déjà arrivé à vous d'être fatigué du chemin, à un moment donné de la vie? Moi, je peux vous dire que oui, pour moi. Ça nous arrive sans doute aux uns et aux autres à certains moments. Jésus a connu ça. Jésus n'est pas étranger à toutes nos fatigues sur le chemin. Et souvent on lit ça et on passe vite là au-dessus. Mais cette fatigue, il l'a connue. Il a connu cette fatigue du chemin. Alors il s'assit là, tout simplement, pas de chichi, au bord du puits. On peut encore voir ce puits aujourd'hui, hein. En Terre Sainte, c'est impressionnant. Je n'ai été qu'une fois en Terre Sainte. C'est un des lieux qui m'a marqué. Voilà. Alors, c'était environ la sixième heure. Alors là, il faut bien comprendre. La sixième heure, ce n'est pas 6 heures du matin. La sixième heure, c'est l'heure du milieu du jour. Hein? Ça veut dire c'est l'heure où le soleil darde le plus de ses rayons. Donc il y a la fatigue du chemin, mais il y a en plus la fatigue de, voilà, d'être en plein midi, voyez. On ne va pas puiser de l'eau à midi, c'est pas l'heure pour aller puiser de l'eau à midi, la météo n'est pas bonne pour aller puiser de l'eau à midi, il y a trop de soleil, voyez. Mais tout ce qui se passe là, cette rencontre va se passer à la sixième heure, c'est-à-dire à midi. À midi, c'est la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine. Je passe sur les détails, qui ne sont pas des détails. L'histoire fait que juif et samaritain, ça ne va pas ensemble. Hein. Et voilà, Jésus, dans cette rencontre, qui considère la personne qui est en face de lui, hein, bien plus qu'une appartenance ethnique ou autre, etc. Jésus sera toujours comme ça, considère la personne. Après, nous sommes forts, nous, pour cloisonner. Jésus décloisonne. Voilà. Il décloisonne. Si nous le laissons travailler, Jésus va décloisonner dans nos familles. Parce que c'est d'abord là que ça cloisonne parfois. Enfin, chaque famille est unique. C'est justement parce que chaque famille est une grâce que nous pouvons demander la visitation de Jésus au cœur de nos familles pour que, voilà, il vienne les travailler, nos familles. Laquelle de nos familles n'en a pas besoin? Pour que le Seigneur vienne travailler de l'intérieur, que je ne fasse pas trop de parenthèses. Voilà. Que voyons-nous? Qui arrive le premier au puits? Jésus. Ce n'est pas la Samaritaine. Jésus précède la Samaritaine à un endroit où elle ne devrait pas se trouver. Parce que on ne va pas puiser de l'eau à midi. Peut-être cette femme est-elle une femme qui n'est pas très fière de sa vie n'est peut-être pas très droite, la suite du texte nous laissera comprendre qu'en effet nous pouvons l'entendre de cette manière, et donc vous voyez cette femme, elle longe les murs pour aller puiser l'eau. Bon, il n'y a pas de mur dans le désert, mais vous comprenez, hein, une manière de longer les murs et de n'être vue par personne, mais c'est d'aller puiser l'eau quand on est sûr de rencontrer personne. Voilà, à midi, elle ne va rencontrer personne au bord du puits. En même temps, elle a besoin d'eau, donc elle doit s'y rendre au puits de Jacob. Pas de chance pour elle, ou plutôt grande grâce pour elle, le salut pour elle, c'est que Jésus est là. Et ça, elle ne sait pas que c'est lui d'ailleurs. Vous voyez, cette femme, elle va faire l'expérience d'un Jésus assis, tout simple, fatigué. Alors elle le découvrira petit à petit. Cette femme, elle va rencontrer cet homme, elle ne sait pas qui c'est, qui va lui dire: j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que dire à quelqu'un: donne-moi à boire, c'est dire à cette personne: j'ai besoin de toi. Alors peut-être que c'est la vie de cette femme fait qu'on ne lui demande plus rien, ou je ne sais pas tout quoi, tout ça on peut l'imaginer, ou peu importe. Elle fouille les gens, elle rencontre là une personne qui lui dit: j'ai besoin de toi. Et c'est Jésus qui lui dit ça: donne-moi à boire. À partir d'où rencontrons-nous les pauvres quand nous les rencontrons? À partir d'où rencontrons-nous les pauvres? Jésus rencontre une pauvre femme, là. La suite du texte nous le révèle. Mais à partir d'où il rencontre cette pauvre femme? À partir de sa pauvreté à lui. Il a soif. Il est fatigué. À partir d'où est-ce que je rencontre les pauvres que le Seigneur met sur ma route. À partir de ma richesse, ou à partir de ma pauvreté, en me disant « ce pauvre SDF à l'entrée du carrefour, j'ai peut-être besoin de lui ». Ça renverse. Hein? Mais c'est une question que cet évangile peut nous, nous soulever. Non pas aborder les pauvres à partir du haut de notre générosité, mais peut-être à partir aussi du fond de notre pauvreté. Cette femme au bord du puits rend peut-être aussi présente cette partie de l'humanité qui est blessée par son chemin de vie. Voyez ? Cette partie de l'humanité qui, plus que blessée par son chemin de vie, est aussi pécheresse, hein? N'est pas fière d'elle-même. Cette femme, visiblement, porte une certaine culpabilité. Et l'expression de cette culpabilité qu'elle peut porter, c'est justement de fuir tout le monde pour aller chercher l'eau à midi. Et c'est dans l'expression de cette culpabilité que le Seigneur vient la relever progressivement, hein, dans ce passage de l'Évangile. C'est là que le Seigneur l'attend. L'enjeu sera de laisser Dieu visiter cette réalité pauvre de son histoire. Ça sera l'enjeu de cette rencontre. Laisser Dieu, et ici je raccroche avec le Sacré-Cœur, l'enjeu sera de laisser le cœur de Dieu visiter la pauvreté et réalité de son histoire. Et d'accueillir que ce cœur de Jésus ouvert, eh bien, il est cette lumière qui vient pour briller dans les ténèbres. Rappelez-vous mardi, cette lumière qui vient pour briller dans les ténèbres. Voilà. C'est ça l'enjeu. Cette femme vit sa vie et elle porte un poids, une lourdeur qui fait qu'elle n'a plus vraiment de liens sociaux, etc. Et Jésus la précède précisément là. C'est vrai pour la Samaritaine, c'est vrai aussi pour nous. Jésus nous attend là où nous sommes et nous ne devrions pas être. Voyez ? Il nous attend là. Il nous rejoint là, dans cette culpabilité, dans ce qui peut être tordu et qui a besoin d'être redressé, relevé, revivifié. Voyez, revivifié, redonner cette vie pour laquelle cette femme samaritaine est faite. Elle n'est pas faite pour vivoter en se traînant de jour en jour au puits à midi parce qu'il y a des ratés dans sa vie. Non, il y a des ratés dans sa vie, il y a sans doute des ratés dans la vie de tout être humain, mais le Seigneur nous envoie son Fils pour nous vivifier, à partir de ce qui est, pour nous ajuster, pour nous relever, pour nous redresser. Alors une question se pose peut-être pour chacun de nous à ce stade-ci de ce passage de l'Évangile, décidément. Jésus la rencontre là où elle ne souhaite être rencontrée par personne. Et moi, et toi, où est-ce que dans ma vie, je souhaite n'être aujourd'hui rencontré par personne? Eh bien, c'est peut-être là précisément qu'au cours de cette retraite, le Seigneur m'attend. Le Seigneur m'attend. Voilà. Nous attendons souvent le Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, donc, au puits de Jacob, c'est le Seigneur qui attend la Samaritaine. Hein? Mais il nous attend aussi. Hein? On peut se poser la question, hein? Où est-ce que dans ma vie, je souhaite n'être rencontré par personne? Voilà. C'est peut-être là qu'il m'attend. Pour faire quoi? Pour mettre sa lumière. Pour que cette lumière fasse ressortir toute la chlorophylle de ma vie et que ça permette de rayonner comme je suis appelé à rayonner. C'est ce qui va se passer avec la Samaritaine. C'est exactement ça. Alors avançons. Vous savez, si moi je devais rebaptiser ce passage, je dirais, c'est la rencontre au bord du puits de l'histoire et des deux sources. Je baptiserai comme ça cette rencontre. Il y a un puits, puits de Jacob. Tout de suite, on va voir que c'est le puits de l'histoire. Et puis, il y a surtout deux sources. Mais tout part autour du puits de l'histoire. Voilà. C'est le verset suivant. Ça va s'éclairer. Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme samaritaine. Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, c'est de l'eau qualifiée différemment que l'eau du puits de Jacob auprès duquel elle s'est approchée avec son seau. C'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça veut dire que cet homme que tu rencontres là, qui est fatigué assis au bord du chemin, du puits, il a une eau à te donner. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Si tu connaissais celui qui te demande « donne-moi à boire », parce qu'en fait, son corps a soif d'eau, le corps de Jésus a soif d'eau, et il n'a pas le seau pour puiser, mais elle l'a. Si tu connaissais celui qui te donne à boire, dit Jésus lui-même, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça veut dire que cet homme qui n'a pas de seau pour puiser est celui qui peut te donner une eau qui va étancher une dimension de ton être, autre que l'eau du robinet étanche une dimension de mon corps. Et du reste, la femme comprend ça, et du coup elle ne comprend plus. Elle comprend ce que Jésus est en train de lui dire. Elle ne sait pas que c'est Jésus, mais elle comprend qu'il a de l'eau à lui donner, mais il n'y a pas de seau. Alors elle ne comprend plus rien, la brave. La femme lui dit « Seigneur ». Alors là, les notes, c'est intéressant. Hein. « Seigneur », ça ne veut pas dire « Dieu ». Hein? Nous, on dit facilement « Seigneur, mon Dieu ». Non, non. « Seigneur », c'est un titre honorifique. C'est comme pour dire « Monsieur ». Vous voyez, elle reconnaît un homme, un juif. Toi, comment ? Toi, un juif. Ben maintenant, elle l'appelle monsieur. Voilà, c'est bien. Pour l'instant, elle est en face d'un monsieur juif. Voilà, c'est ça, en face de qui elle est. Seigneur, tu n'as pas même un seau. Et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive ? Elle a bien retenu que c'est de l'eau vive. Elle dit pas seulement d'où la tiens-tu donc cette eau ? Non, non, d'où la tiens-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ? Est-ce que tu es plus grand que... Enfin, c'est le puits de l'histoire, quoi. Jacob, ses fils, ses bêtes, qu'est-ce que tu as de plus à apporter ? Vous voyez ? Qu'est-ce que tu as de plus à apporter ? Je traduis, hein ? À l'eau de l'histoire. À l'eau de l'histoire. L'eau du puits de Jacob. C'est le premier lieu de la rencontre, c'est le puits de l'histoire. Je traduis pour nous aujourd'hui, Jésus, il nous rencontrera toujours à partir du puits de notre histoire. Toujours. On peut tourner ça dans tous les sens. Regardez la Vierge Marie, comment l'ange s'est adressé à elle à partir d'une histoire. Comment l'ange s'est adressé à Joseph à partir de... Voilà. Mais toujours pour aller après plus loin. Serais-tu plus grand que ce puits ? Que Jacob, cette eau auquel il a bu ainsi ses fils et ses bêtes. Et maintenant, Jésus va opérer un déplacement chez cette femme. Et il va l'amener à la source numéro 1 du puits de l'histoire. Il va la déplacer à la source numéro 1 avec ces versets suivants. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci, puis Jacob, l'eau de l'histoire, aura encore soif. » Ça veut dire... Quand bien même ce puits peut donner l'eau la plus pure, moi je viens de la ville de Spa, hein. c'est rempli d'eau, hein. Et aujourd'hui c'était rempli d'eau au-dessus, en dessous, partout, quoi, hein. Mais c'est rempli d'eau, ce sont des sources, ce sont de la bonne eau, hein. Mais si tu te limites à cette eau-là, tu auras toujours soif. Donc Jésus est en train de lui dire, chère madame, il y a une soif qui ne sera jamais étanchée avec la meilleure eau de Spa que tu puisses boire. Hein. Quiconque se limitera à être étanché de cette eau-là, il portera toujours une soif. Il portera toujours une soif. Mais, dit Jésus, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et en même temps, il faudra qu'il aille encore au puits de Jacob. Hein. Il faudra qu'on ouvre encore le robinet tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais oui, Jésus l'amène sur un autre terrain. Il vient réveiller la soif profonde qui est en nous. Il fait ce travail avec la Samaritaine, hein? Il le fait avec moi et avec vous. Si nous prenons le temps de nous arrêter un peu auprès de lui, comme ce dialogue sous-entend qu'ils se sont arrêtés l'un auprès de l'autre. Il n'aura plus jamais soif. Au contraire, et donc voyez, l'eau que lui va donner, cette eau, voyez, cette eau vive, c'est l'eau qui vient de son cœur. C'est ça la source numéro un. Abreuve-toi au cœur de Jésus. Du haut de la croix a coulé de ce sacré cœur l'eau et le sang, la vie donnée pour que le monde ait la vie. Cette femme, elle a la vie, son cœur bat, mais nous voyons combien elle est morte. Et Jésus, lui, voilà. Et c'est pourquoi il lui dit, mais celui, c'est la grande délicatesse de Jésus, voyez, Jésus, à nouveau, comme avec Nicodème, rappelez-vous, avec Nicodème, nul ne peut naître, etc., connaître le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'en haut. Ici, Jésus ne stigmatise pas cette Samaritaine, il ne dit pas, si tu bois de l'eau que je te donne, ça c'est pas la manière de Jésus. Non, non. Celui qui boira, il dit même pas celle, or il s'adresse à une femme. Donc c'est bien, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, la grande délicatesse de Dieu qui exprime son amour pour tout humain, celui qui, mais qui en même temps jamais ne viendra l'imposer, jamais. Mais jamais nous ne pourrons freiner le don de son amour pour l'humanité, mais jamais il ne viendra l'imposer. Et donc c'est avec une grande délicatesse qu'il dit, si tu te contentes de l'eau du puits de Jacob, tu auras toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et maintenant, même mieux que cela, au contraire, l'eau que je lui donnerai, cette eau vive, cette eau qui s'écoule de la croix, du côté ouvert, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en cette personne, une source jaillissante en vie éternelle. Eh bien mon Dieu, il est en train de dire ça à cette pauvre femme qui se croit peut-être plus bonne à rien parce que son chemin de vie est tellement chaotique qu'elle se dit, moi, il faut bien que je vivote et je n'ai plus rien, on ne peut plus rien me demander, je ne suis pas digne de rien du tout. Et Jésus est en train de dire à cette femme, celui, ça veut dire si toi tu le veux, il y a place pour toi, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, il deviendra, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en cette personne, une source jaillissante. Oh, Jésus est en train de dire ça à cette pécheresse. Tu peux devenir une source jaillissante, et pas seulement avec de l'eau de spa, mais jaillissante en vie éternelle, c'est-à-dire que ce qui va jaillir. Et voyez, c'est la troisième source, enfin la deuxième source. Il y avait le puits de l'histoire, la source du cœur de Jésus. Passage par lequel celui qui y passera deviendra alors lui-même une source pour d'autres. Parce qu'une source, c'est jamais rien que pour soi. Hein? Une source, c'est donner pour d'autres. En d'autres termes, celui qui va se nourrir du cœur de Jésus, eh bien il va devenir une source de ce cœur pour d'autres. Jusque-là, ça va? Alors, évidemment, la femme trouve que c'est intéressant. Alors elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau. que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Bon, elle n'a pas encore tout bien compris. Hein? Parce qu'en effet, c'est juste, si elle a et qu'elle va goûter cette eau de la source numéro un qu'est le cœur de Jésus, elle n'aura plus soif. En effet, Jésus lui a dit, mais en même temps, ben elle devra quand même encore continuer à aller puiser de l'eau. On va encore chez Carrefour acheter des bouteilles. Hein? Pardon pour la publicité. Mais, voyez, alors Jésus la conduit plus loin. Oh, vous êtes attaché?
Oui.
Jésus lui dit justement ce qu'elle ne veut pas entendre. Va, appelle ton mari et reviens ici. Oh là 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 là, c'était ce qu'il ne fallait pas lui dire à cette brave femme. Parce que justement, sa vie, mais c'est justement chez elle, c'est dans ce domaine-là que ça couaque, si vous voulez. C'est dans ce domaine-là qu'il y a un problème chez elle. Et Jésus, mais comme elle a soif de cette eau, pour ne plus avoir soif, alors Jésus la conduit pas à pas pour qu'elle puisse accueillir cette eau. Et donc Jésus va lui, voilà, comme un bon médecin. Vous voyez, un bon médecin, c'est celui qui, quand vous avez mal au ventre, hein, vous allez chez le médecin, s'il pousse, vous ne sentez rien du tout, puis qu'il vous donne la prescription, moi je ne crois déjà pas trop à son remède. Par contre, si je vais chez le médecin et qu'il pousse, et puis, ah oui, là il a senti où je l'ai, le mal, voyez, du coup il va me faire une prescription, et là, j'aurai déjà plus de foi dans le remède. Enfin, ça c'est moi, hein. Après chacun a ses pratiques médicales. Hein. Mais Jésus, tel un bon médecin, vient pour libérer cette femme, appuyer pile où ça fait mal. Et c'est pas pour le plaisir de faire mal. Non, non, c'est pour la joie de Dieu de soigner la blessure d'un de ses enfants. Voyez, c'est la grande joie de Dieu. C'est pas de faire mal. Quand j'étais petit, moi, et que j'étais une fois tombé à vélo et raflé tout le bazar, eh bien, on passait, il fallait enlever un peu les morceaux de cailloux qu'il y avait dans, ça faisait pas du bien. Ça aurait été mieux de mettre un cache-misère, peut-être, pendant quelques heures, et puis après, j'aurais eu plus mal, ça serait infecté davantage. Il faut peut-être un peu aller gratter les cailloux de macadam qui sont un peu dans le genou. Voilà. C'est pas pour faire mal. Dites-vous bien une chose. Jésus ne voudra jamais faire mal. Jésus n'a qu'un cœur pour guérir. Et quand bien même il va dénoncer le mal, c'est pour guérir. Alors, Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Mais c'est très beau, je m'arrête. Appelle, je t'envoie au lieu de ta souffrance. Appelle ton mari, c'est le lieu de sa souffrance à cette femme. Et puis, il ne dit pas, débrouille-toi avec ce lieu de souffrance. Non, non, reviens ici. Va au lieu de ta souffrance et amène-moi. Reviens ici avec ce lieu de ta souffrance. Il y a tout ça dans cette parole de Jésus. Mon cœur, enfin, il ne le dit pas, mais je vais plus loin, pas plus loin, je mets d'autres mots. Mon cœur est là pour accueillir le lieu de ta souffrance. Va, appelle, reviens. Et ce petit dialogue maintenant est savoureux. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis bien. Tu dis bien. Je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et l'homme avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. Vous avez remarqué? Tu dis bien. Cette femme n'a pas menti. Cette femme n'a pas menti. Et Jésus souligne la vérité qu'elle apporte dans sa réponse. Mais en même temps, Jésus lui dit, tu sais, tu peux tout me dire à moi. Puisque maintenant je vais te montrer que je te connais. Tu dis bien, je n'ai pas de mari. En effet, tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Mais c'est génial! En cela, tu as dit vrai. Voyez. Jésus souligne ce qu'il est riche de souligner, ce qui est source de vie dans la réponse qu'elle a donnée. Seigneur, lui dit la femme. Alors, voyez par exemple, hein, je fais une parenthèse pour nous, parce que je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'où je veux, mais donc un petit mot quand même. En fait, c'est en train de se confesser, enfin, elle est en train de se confesser là, finalement. C'est une confession, d'une certaine manière. Et Jésus lui dit, tu sais, dans ta confession, tu ne m'apprendras rien. Donc tu peux y aller tout complet. Hein? Non, mais c'est vrai. Ça, on doit se dire aussi, quand nous allons vivre le sacrement de la réconciliation, nous n'apprenons rien à Dieu. C'est même son Esprit Saint qui nous révèle ce qui n'est pas ajusté dans nos chemins. Alors nous, on est fort pour tourner autour du pot. Hein? Mais non. Ceci, c'est pas nouveau. Hein? Que nous n'apprenons rien à Dieu, là, quand on va se confesser. Déjà Adam. Tu as donc mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Vous vous rappelez? Il y avait un Adam qui t'a appris que tu étais nu, etc., etc. Tu as donc mangé du fruit de l'arbre? Oh ben oui, ne passons pas notre vie à tourner autour du pot avec Jésus. On ne lui apprendra rien en lui disant tout. Et en même temps, il y a quelque chose d'important. De pouvoir le sortir de soi. Son cœur est là pour l'accueillir. Comment peut-il l'accueillir si je ne le sors pas de moi? Voyez, c'est tout l'enjeu de l'aveu dans la confession. Un petit exorcisme là. L'Esprit Saint me montre le mal qui est à sortir de moi. Sortir de moi. Il y a un cœur pour accueillir ce mal. C'est le cœur de Dieu. Le cœur transformateur du Christ. C'est un cœur transformateur. Ouais. Donc je continue maintenant. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Tu n'es plus seulement un juif, tu n'es plus seulement un monsieur. Ok. Je chemine dans la compréhension de qui tu es. Tu es un prophète. Je lis la note. Constatant que Jésus connaît les secrets de sa vie, la femme le salue cette fois-ci comme un homme de Dieu. Voilà. La pédagogie de Dieu qui avec nous va pas à pas pour que nous le reconnaissions progressivement pour ce qu'il est dans nos chemins de vie à chacun. Je vois que tu es un prophète. Voyez, cette femme, en fait, pour qu'elle puisse goûter l'eau vive, qu'a dû-elle faire ? Une opération vérité sur elle-même. Et elle y a été aidée par Jésus lui-même. Une opération vérité sur soi. C'est ce qui est nécessaire à chacun pour goûter pleinement cette eau vive et pour soi-même devenir source, devenir vivifié, restauré progressivement. Voyez, cette femme, elle a donc quitté l'illusion qu'elle a par rapport à elle-même. Voyez ? Il nous faut quitter les illusions que nous avons par rapport à nous-mêmes. C'est trop important. Cette femme, Jésus, lui apprend à se réconcilier avec son histoire. Et tout part du cœur de Jésus. Se réconcilier avec son histoire, c'est fondamental pour être un vivant. Pour être un vivant. Il a fallu que je me réconcilie avec ce qui s'est passé dans ma vie le 25 décembre 2003, quand j'avais décidé de me tuer. Il a fallu que je me réconcilie avec ça. Ben oui, c'est mon histoire. C'est l'eau de mon puits de Jacob. Alors, soit je masque ça, soit, à un moment donné, je laisse visiter cela. Et Jean-Marc, tu n'es pas que quelqu'un qui a voulu se suicider dans sa vie. Mais non. Et le cœur de Jésus nous redira à tous la même chose. Ton identité profonde, c'est d'être mon fils bien-aimé, dit Dieu, ma fille bien-aimée. Toi, la Samaritaine, tu longes les murs pour aller puiser au puits à midi, parce que sans doute que dans le village, tout le monde connaît un peu ta vie, et que ça jase, et qu'on te regarde de travers, et tout ce que tu veux. Oui, bien sûr, d'accord, tu es une pécheresse. Tu n'es pas qu'une pécheresse, tu es d'abord fille bien-aimée du Père. Et ce Père continue de te bénir, de te faire don de sa vie. Il met sur ta route une source. Voilà, pour étancher ta soif de vivre. Voilà, c'est ça. Cette Samaritaine va être restaurée dans son identité profonde. Et du coup, elle sera remise en route. Donc vous voyez, Jésus vient de souligner, mais ça passe par une opération vérité, ça passe par faire face, voir la réalité de ma vie en face, l'assumer, voilà. L'assumer, oui bien sûr, l'assumer. Et comme je disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'assumer à tous les niveaux, l'accueillir. Dans le fait que c'est inouï, alors que j'ai voulu et décidé de supprimer ma vie il y a 17 ans, celui qui me l'a donné continue à m'aimer. C'est impressionnant. Voilà. Pour d'autres, ben oui, ils vont découvrir cette même grâce dans d'autres domaines de leur vie. Avec d'autres impacts aussi, parce que Voilà, parce que la miséricorde n'efface pas la justice, par exemple. Voilà. Mais tu veux être libre. Tu veux être... Il y a une opération vérité. Une opération vérité. Progressivement, à vivre avec ce cœur de Jésus. J'ai lu un petit récit, d'un prisonnier français qui a été guillotiné il y a une cinquantaine d'années, Jacques Fesch. Voilà. Il s'est retrouvé en prison, condamné à mort. Et j'ai lu ce petit livre, « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Et c'est en fait son journal de prison. Son journal de prison. Cet homme est derrière les barreaux. Et voilà, je vais dire, la justice, elle a à faire son œuvre. Elle le fait très bien. Cet homme est là, il a tué. Un braquage a mal tourné. Ben, il a tué. Il est là. Et... au fond, cet homme a rencontré le Christ. Derrière les barreaux, hein. Et cet homme avance son chemin de conversion. Et il nous partage ça. Ce chemin de conversion qui est le sien. Et ce chemin, et cet homme... manifeste combien il est libéré. Il va être guillotiné, hein? Mais il est libéré. Cet homme, il est libre. Comprenez la liberté au-dedans. Il y a des tas de gens qu'on croise tous les jours, on les connaît ou on ne les connaît pas. Ils sont libres de leur mouvement, mais ils ne sont pas nécessairement libres dedans. Cet homme, Jacques Fesch, n'était pas libre de ses mouvements, prisonnier derrière les barreaux. Mais ce chemin, cette rencontre avec le Christ, mais l'a libéré, l'a rendu libre. Alors, ce n'est pas pour... Oui, c'est pour... comment je vais dire ? C'est pour souligner cette opération vérité. Envers soi-même, de pouvoir assumer le chemin de vie qui est le sien avec les conséquences que ça a. Mais il y a toujours, au cœur qui s'y ouvre, le cœur de Dieu qui descend jusqu'où je suis, fût-ce en prison, comme pour cet homme, comme pour d'autres. Hein? Opération vérité. Et du coup, c'est la suite des versets. Je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Voyez, on adore sur cette montagne à Jérusalem le lieu. Enfin bref, est-ce que Jésus est plus présent dans la chapelle à Stockel qu'au marché, qu'ailleurs, ou je ne sais pas quoi, hein? Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh. Ah ben nous, si nous voulons faire un quart d'heure d'adoration après la messe, c'est pour nous aussi ces paroles gentiment, hein, mais ça veut dire qu'on a toujours à découvrir plus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut, ah voilà, la véritable adoration, c'est le lien au salut. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit, et en vérité. Voilà. Et voyez, tout ça, c'est dans ce petit dialogue où Jésus a souligné chez la Samaritaine, là, tu as dit vrai. Voilà. Les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit et en vérité. Et ce n'est pas surprenant que ces mots esprit et vérité soient joints. L'esprit est celui qui nous conduit vers la vérité tout entière. Vers la vérité tout entière. Alors après, est-ce que c'est plus dans cette colline-là, sur ce temple, dans ce... Voilà. Si tu adores Jésus dans cette belle chapelle à Stockel, mais que c'est pas, qu'il n'y a pas ce mouvement d'esprit et de vérité, ben, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Ah ben c'est le carême, il nous secoue, hein. Et moi le premier, hein. Voilà. Parce que il faut quand même toujours grandir sur ce chemin-là, d'accueillir l'Esprit Saint qui nous met en chemin, qui nous révèle qui nous sommes, qui est Dieu, un chemin de vérité. Ah ben oui, et Jésus disait de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous continuons. En effet, tels sont les adorateurs que cherche le Père. Vous voyez, le Père cherche des adorateurs comme ça. Il les cherche. Et moi, ça me fait penser à cette autre parole. Ailleurs, je ne l'ai pas recherchée, elle me vient maintenant. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi quand il reviendra sur terre ? Trouvera-t-il, ça veut dire qu'il va chercher, hein? Mais le Père aussi, il cherche des adorateurs. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Oh, voilà. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Elle ne se rend pas compte qu'il lui parle, en fait. Mais je sais qu'il y en a un qui doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes ces choses. Tu peux te taire pour le moment, tu sais. Il y en a un qui va venir pour nous annoncer tout ça, et c'est bien. Hein? Réponse de Jésus. Je le suis, moi qui te parle. Vous voyez cette femme qui a d'abord vu un juif, ne comprenait pas pourquoi s'adressait à une samaritaine. Elle y a reconnu un monsieur, et puis elle a reconnu un homme de Dieu parce qu'il connaissait les secrets de sa vie. Et puis finalement, elle est quand même avec une certaine culture, elle sait que. Il y a un Messie qui va venir, il nous apprendra bien toutes ces choses-là que tu es en train de me raconter. Hein. Et puis maintenant, voyez maintenant, Jésus, le feu est vert. Je sais qu'il y a un Messie qui doit venir. Le feu est vert. Jésus peut maintenant dire qui il est. C'était inaudible peut-être avant pour cette femme. Voyez, Jésus vient avec délicatesse à nos rencontres, à notre rencontre. Alors quand nous autres nous avons porté Jésus, allons aussi avec délicatesse à la rencontre des autres. Faisons un chemin. Et en même temps, un chemin qui, avant cette déclaration de Jésus sur son identité à cette femme, un chemin qui a été exigeant. Va, appelle, reviens. Si tu bois de cette eau-là, on aura toujours soif de quelque chose. Mais en même temps, Jésus n'avait jamais dit qui il était. Maintenant, la femme lui montre qu'elle est prête à entendre qu'on parle un peu d'un Messie, qu'on appelle Christ. Alors, je le suis, moi qui te parle. Elle a dû tomber en syncope, sans doute. Sur quoi les disciples arrivèrent? Vous vous rappelez, ils étaient partis au Colruyt acheter à manger, hein? Donc maintenant, ils reviennent, il y a eu la petite discussion au bord du puits, la rencontre entre ce moment-là le cœur de Jésus, cette femme qui a accueilli cette eau vive, avec cette opération vérité. Et puis maintenant, les disciples reviennent et ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Voilà. Bon, on leur demandera là-haut pourquoi. Hein? Oui, sans doute que culturellement, il devait y avoir des affaires comme ça, mais bon, voilà. Hein? Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu ?» à Jésus. La femme, alors, écoutez ça, la femme, alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville. Et elle dit aux gens, oh, mais c'est pas rien quand même. Et tout ce qu'il y a là-dedans, elle a rencontré Jésus, elle a goûté cette eau vive, elle est en présence du Christ, etc. Il y a quelque chose qui est travaillé en elle, elle peut lâcher un truc, elle lâche sa cruche. Quelle est la cruche que Jésus m'appelle à lâcher pour avancer mon chemin de vie aujourd'hui? On a tous une cruche à lâcher, je suis sûr. Tous une cruche à lâcher. Là où on croit que l'eau est bonne et en fait Jésus nous dit, c'est peut-être pas. Tu te trompes peut-être de source. Là. Quelle est la cruche que nous avons à lâcher? Elle lâche. Elle lâche pas. Parce que lâcher, ça pourrait être... C'est tombé. Excusez-moi. Elle abandonne sa cruche. Ça veut dire... Et un avant et un après. Et puis, elle s'enfuit à la ville et elle dit aux gens, elle qui longeait les murs pour n'être vue par personne, voilà que de la rencontre avec le Christ, elle est remise dans un mouvement social. Mais le mouvement social est fondamental à la vie. Elle est remise sur son chemin de vie. Ta vocation, quand bien même tu as eu 5 maris et tu vis avec un homme qui aujourd'hui n'est pas ton mari, ta vocation c'est d'être une vivante. Et en même temps, de te laisser ajuster, bien sûr, de te laisser travailler à l'intérieur de toi, pour que tu deviennes toi-même qui tu es, deviens, voilà, deviens celui que tu es, pourrait nous dire Jésus à chacun, mais aussi pour qu'en devenant qui tu es, tu donnes vie autour de toi. Et une vie éternelle, tu vas devenir source. Vous voyez? Et bien voilà, la femme, elle devient source. Vous voyez, la source numéro 2, qui cette fois-ci est la vie transformée de cette femme, et bien nous la découvrons ici, la source numéro 2. Comment va-t-elle porter cette vie plus loin? Elle l'a goûtée, cette eau vive, et puis elle devient source pour d'autres. Elle qui se disait bonne à rien, peut-être. Donc elle va trouver des gens et elle leur dit quoi? Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? C'était tellement surréaliste qu'elle n'y croit encore qu'à moitié, quoi. Hein? Il lui a dit je le suis, n'empêche elle se pose quand même encore la question, venez voir un homme, tout ce qu'il m'a fait, pas tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a dit que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Bah, il faut oser, hein. Elle commence à témoigner. Vous voyez? Alors, ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples étaient revenus du magasin. Les disciples le pressaient. Rabbi, mange donc! Il se soucie de l'estomac de Jésus, mais Jésus est bien ailleurs. Mange donc! Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se dirent entre eux, mais quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça me rassasie, dit Jésus. Alors vos saucissons, c'est bien, mais et je suis rassasié, parce que quelque part, je viens de vivre ça avec cette femme, la volonté de mon Père est de réaliser son œuvre. Et la volonté du Père, c'est qu'aucun, aucun de ceux qu'il ne lui a confié à Jésus ne soit perdu. Et il vient de remettre en route cette femme. Mais il est rassasié, hein, Jésus. Vous voyez ? Et ça, les disciples, ils ne comprennent pas encore. Ben, les disciples, c'est un peu nous, hein. On est disciples de Jésus. Hein? Voilà. Ne dites-vous pas, etc., encore 4 mois, il viendra la moisson. Encore, voilà, mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez. Déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, le proverbe est vrai, qui dit « l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voyez, la fécondité de cette femme qui s'est laissée toucher dans sa fragilité par le Seigneur, la fécondité de cette femme, elle amène à la foi. À partir de son témoignage, ils l'ont même pas encore vu, Jésus. Beaucoup de Samaritains crurent en lui à cause de la parole que la femme leur a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et en plus, elle n'a pas l'air démolie, voyez. Parce que peut-être que les Samaritains connaissaient ce qu'elle avait fait, hein. On ne sait pas, hein. On n'en sait rien. Certains sans doute, puisqu'elle longeait les murs, hein. Et bien voilà. Et elle vient, et voyez, elle est réconciliée avec son histoire. Elle n'est pas glorieuse, son histoire, à tout niveau, on l'a vu. Mais elle a retrouvé son identité. Elle peut dire aux autres, mais il m'a dit tout ce que j'ai fait. Sous-entendu, il n'y a pas que du beau, en effet, voilà. Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Vous voyez ? Donc, pendant qu'ils sont en chemin, déjà, il y en a beaucoup qui croient. La parole et le témoignage de cette femme les ouvre à la foi. Et quand ils arrivent auprès de lui, cette présence de Jésus est tellement bonne et bienfaisante qu'il lui demande de rester parmi eux. Vous ne demandez pas à quelqu'un dont la présence est on va dire toxique, hein, c'est un mot aujourd'hui, hein, qu'on entend, hein, pour rester avec vous, hein. Non, il ne demande à Jésus, reste avec nous. Et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Voyez, la parole de la femme les a mis en route, en a ouvert certains à la foi, les a conduits jusqu'à la rencontre de Jésus. Il ne faut pas s'arrêter à la parole du témoin. Il faut aller à la source. Et c'est bien ça qu'a fait cette Samaritaine. Venez voir un homme, c'est là que je vous conduis. Mon témoignage, tant mieux s'il est un tremplin qui peut conduire à la source. Et ce tremplin permet à certains ce chemin de foi. Et d'autres qui vont aller par le tremplin à la source, vont à la source encore plus nombreux. Goûter ce cœur de Dieu à partir de sa parole à lui. Je dis lui comme ça parce que la croix est derrière. Hein, à partir de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ah ça c'est très beau parce que ça remet bien tout le monde à sa juste place. Il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Une grande rencontre de Jésus, du cœur sacré de Jésus, du cœur ouvert de Jésus, pour un cœur pauvre de l'homme, pour une vie boiteuse de l'homme, celle de cette femme, et qui va être revivifiée. Voilà. Et Jésus, de nous dire aussi, les adorateurs que cherche le Père sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et comment Jésus a été pédagogue avec cette femme? Comment il a été pédagogue avec cette femme? Il lui a d'abord dit, j'ai besoin de toi. Tu n'es pas une bonne à rien. J'ai besoin de toi, donne-moi à boire. Et puis il lui a conduit sur cet autre chemin de l'eau vive. Et puis avec une grande délicatesse, il l'a mis face à la réalité de sa vie en soulignant ce qu'il y a de grand dans ce qu'elle a dit. En cela tu dis vrai. En cela tu dis vrai. Frères et sœurs, nous gagnerons toujours à souligner ce qu'il y a de grand dans celui qui est en face de nous. Même si dans celui qui est en face de nous, il y a beaucoup de petits. Voyez ce que je veux dire? Même si je suis en fait un grand pécheur. Voyez. Et je termine sur une note de joie. Une note de joie. En lien avec ce que Jésus a dit, je suis rassasié par cette rencontre. J'ai accompli la volonté de mon Père. C'est ça qui me nourrit, dit Jésus. Alors voyez, on comprend qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Et quand un jour on reprochera à Jésus de s'attabler avec des pécheurs, à ce moment-là, Jésus va non pas prendre une parabole, non pas deux, mais trois à la queue leu-leu, pour être sûr qu'au moins il y en ait une qui entre dans les oreilles de ses auditeurs. Et dans ces trois paraboles, il y a la joie. Et je vous invite à relire chez vous le chapitre 15 de Saint Luc, sous cet angle-là. La joie de Dieu dans les paraboles de la miséricorde. Et cette détermination de Dieu de nous rechercher, de nous rechercher. On peut jouer à cache-cache avec lui toute sa vie, toute notre vie, mais il continuera à nous chercher. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il y en a une qui s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres jusqu'à ce qu'il les retrouve. Voyez. Parce que ça, c'est sa nourriture. Voyez. Jusqu'à ce que... J'ai lu ces paraboles des dizaines de fois. Ce n'est qu'il y a un an et demi, que ces petits mots « jusqu'à ce que » ont pris lumière chez moi. J'ai dit, mais c'est inouï. Ce cœur de Jésus, il ne va jamais nous lâcher. Même si toute notre vie nous vivons cache-cache avec lui, eh bien il viendra encore nous trouver après notre mort. C'est ce que nous disons tous les dimanches, en disant que je crois en Jésus qui est descendu aux enfers. Mais ça, peut-être un mot là-dessus, demain on verra. Mais voilà, la joie. Et quand il a retrouvé cette brebis, Il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et il n'a pas peur d'être encrotté, hein, Jésus. La brebis, elle avait été un peu... elle avait quitté le chemin, hein. Voilà. Et puis, réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi, voilà. Et cette brebis est tellement heureuse alors d'être retrouvée sur un chemin de vie qu'elle va devenir un peu vigilante pour essayer de ne plus tomber dans les ornières où elle est tombée. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille les brebis de son troupeau humain, que nous sommes chacune et chacun.